Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Comme vous le savez, nous faisons une petite série sur l'étude de la Bible, sur la façon de tirer le meilleur parti de la parole de Dieu. Et je suis heureux de vous dire qu'au mois d'août, un livre intitulé « Comment tirer le meilleur parti de la parole de Dieu » sera publié. Il contiendra une partie de ce que je vous dis et beaucoup plus. Ce sera une sorte de livre de poche de format commercial. Je suis vraiment excité parce que, évidemment, j'ai une telle passion pour la parole de Dieu. Et au cours des années, j'ai écrit un certain nombre de livres et d'articles sur la Bible. Et ce livre rassemble le meilleur de tout ça. C'est une sorte de mise à jour, un résumé d'ensemble. Encore une fois, le titre sera « Comment tirer le meilleur parti de la parole de Dieu ». Je le relisais pour l'éditer, et Patricia se demandait certainement comment je pourrais avoir une telle expérience de joie sur quelque chose que j'avais écrit moi-même. Mais je continuais à lui dire « Tu sais, ce truc est vraiment puissant, c'est vraiment bon. Et le problème est que j'avais écrit tout ça, il y a si longtemps que j'avais oublié que j'avais dit toutes ces choses ». Donc, ce livre résume beaucoup de choses que nous voulons partager avec vous. Nous sommes tellement bénis d'avoir autant de nouveaux membres dans notre Église, tant de nouveaux dans la foi. Dimanche dernier, nous avons accueilli encore 80 personnes dans l'association, dans la famille de l'Église, et beaucoup sont des nouveaux en Christ, et nous sommes si désireux de jeter les bases de la confiance dans la parole de Dieu. J'ai dit aux prédicateurs tout au long de mon ministère que lorsque votre peuple se soumet consciemment à l'autorité de la parole de Dieu, alors vous pouvez l'ouvrir n'importe où, et il se soumettra à sa vérité. Comprendre ce que vous avez en ayant la parole de Dieu est si fondamental. Donc, dans cette petite série sur la façon d'étudier la Bible, nous avons essayé de jeter les bases de ce que sont les Écritures, afin que vous soyez obligés de faire cette étude. Et nous entrerons dans les détails à partir de ce soir. En guise d'introduction, et en posant continuellement une sorte de pensée fondamentale sur la façon même d'étudier notre Bible, ce que, comme je l'ai dit, nous commencerons à faire ce soir. Permettez-moi de vous rappeler que la Bible est le livre le plus puissant, la plus puissante littérature jamais écrite. Selon Hébreux 4:12, elle est vivante et puissante, plus tranchante que n'importe quelle épée à double tranchant. Elle a la capacité de percer au cœur de l'âme, même de l'homme, de disséquer l'homme, et de révéler sa propre nature, son propre caractère et son propre péché, ses propres désirs, qu'ils soient pour le péché ou pour Dieu. Elle peut littéralement vous mettre à nu. Elle tranche profondément. C'est un outil puissant et vivant que Dieu utilise pour exposer notre cœur et la vérité sur nous-mêmes. Non seulement la Bible vous brise, mais elle vous reconstruit. Selon 1 Pierre, chapitre 1, l'apôtre Pierre nous rappelle que ce que nous avons, c'est une parole vivante et permanente de Dieu. C'est une vérité impérissable sur laquelle Dieu fonde une vie éternelle, une vie de gloire. Ainsi, alors que la parole a le pouvoir de trancher, de briser et d'émietter nos convictions, de révéler la vérité des plus profonds recoins de nos cœurs, elle a aussi le pouvoir de nous remettre sur pied. Selon 1 Jean 1:4, Jean nous dit « Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite ». La Bible est aussi la source d'une joie parfaite, construite sur la paix parfaite et l'espoir du temps et de l'éternité. C'est le livre le plus puissant qui existe, et cela parce que, pour accomplir ces choses vivantes, elle ne doit pas être la parole des hommes, mais la parole du Dieu vivant. Et c'est exactement ce qu'elle est. C'est pourquoi le psaume 138:2 nous dit « Dieu a exalté la parole au point que son nom soit célébré ». Il est impossible de séparer la gloire de la parole de Dieu lui-même, parce qu'il s'agit en fait de sa propre parole. La Bible n'est pas la parole des hommes, c'est la parole de Dieu. Et je veux en parler un peu ce matin, parce que si vous étudiez les Écritures, Cela dépendra en grande partie de votre confiance en l'Écriture et de votre compréhension de sa nature profonde. La Bible est la vérité révélée. C'est par elle que Dieu parle. Je veux que vous vous tourniez vers plusieurs textes pour comprendre cela. Tout d'abord Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Cela ressemble plus à une leçon scolaire qu'à un message normal que je vous ferai normalement ou habituellement un dimanche. Mais je pense que c'est très, très important. Je vais prendre le rôle de l'enseignant si vous me le permettez ce matin. Dans Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Donc, nous avons une bonne idée de la signification de ce qu'est la vérité révélée. Dieu, dit-il, a parlé littéralement, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et nous nous arrêterons là un moment. Nous faisons face ici à la réalité de la parole de Dieu. Cela confirme la question de la révélation. Dieu a parlé. C'est lui qui s'est révélé. Il s'est révélé. Dieu a révélé la vérité pour l'homme. Comment a-t-il fait? Il l'a fait à travers les pères. À travers les pères, ce qui désigne les hommes qui étaient les dirigeants d'Israël, et même avant eux, bien sûr, les pères connus sous le nom de patriarches, dans le Pentateuque, dans le livre de la Genèse principalement. Dieu a parlé il y a longtemps à ses pères de la nation d'Israël. Il a parlé par les prophètes. C'est juste un terme générique signifiant aux auteurs de l'Écriture, ou ceux qui ont parlé pour Dieu, ceux qui étaient les porte-paroles de Dieu. C'est un terme qui inclut les prophètes, le terme technique pour ceux qui sont appelés prophètes dans l'Ancien Testament. Il comprend également des rois comme David et Salomon. Cela inclurait des prêtres comme Samuel et d'autres qui ont été utilisés par Dieu pour parler. Le terme prophète est utilisé ici en quelque sorte dans un sens générique non technique pour désigner quelqu'un qui parle pour Dieu. Dieu a parlé à travers des orateurs humains et des écrivains, ce qui signifie bien sûr les auteurs de l'Écriture. Il a parlé, dit-il, de nombreuses fois. Polymeros. C'est un mot qui signifie par segment. Cela a à voir avec le fait que Dieu a parlé. Il parle ici de l'Ancien Testament, et il a parlé clairement en utilisant des instruments humains, comme les écrivains, et il l'a fait en plusieurs fois. Il y a 39 parties spécifiques dans l'Ancien Testament, et nous appelons ces livres parties. Il y a 39 livres. La Bible en a 66. Le Nouveau Testament en a 27 et l'Ancien en a 39. Il a donc parlé en plusieurs fois. Dans ces livres, ces 39 que nous pourrions appeler des parties, il y a également d'autres parties. Ces livres se divisent et contiennent des parties diverses et variées, des sections, des paragraphes, etc. Il l'a fait sur une longue période de temps, à travers de nombreux prophètes ou écrivains humains. Mais tout cela, c'était Dieu qui parlait. Il a également parlé, nous dit-on au verset 1, de plusieurs façons. De plusieurs façons. Qu'a-t-il utilisé pour transmettre ces mots à ceux qui les écrivaient? Eh bien, des visions. Vous savez, bien sûr, qu'il y a eu un certain nombre de visions. Même Moïse a eu une vision de Dieu dans un buisson ardent dans le désert. La vision d'Isaïe nous est bien connue. Les visions d'Ézéchiel nous sont bien connues. Il y a beaucoup d'autres visions qui sont venues aux prophètes. En fait, souvent les prophètes écrivent en parlant de leurs écrits, en tant que vision. La vision du Seigneur est venue au prophète un tel, et il l'a écrite. Et puis il y avait des mots directs de Dieu qui se déplaçaient dans l'esprit humain et qui donnaient la vérité à l'écrivain, qui les prêchait pour la première fois, afin qu'il puisse dire qu'il les transmettait prophétiquement, avant de plus tard les écrire. Dieu parlait aux auteurs de l'Écriture par des paraboles, d'une certaine manière, par des symboles, par des cérémonies, par ce que nous appelons des théophanies, ou des incarnations de Dieu, tel l'ange du Seigneur, ou même des apparitions visibles de Dieu comme dans le buisson ardent. Il parlait de temps en temps d'une voix audible, tonnant du ciel d'une manière audible pour être entendu clairement et distinctement et spécifiquement. Donc, à bien des égards, dans de nombreux extraits, à travers de nombreux écrivains humains différents, Dieu a parlé. C'est ce que dit ce verset, et elle est alors attestée, cette révélation de Dieu dans l'Ancien Testament. Les hommes avaient l'habitude de coucher sur le papier cette révélation de Dieu que Dieu lui-même a inspirée, des hommes qui ont ensuite été éclairés et dynamisés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les dynamisant. L'Ancien Testament n'est donc pas un condensé du meilleur de la sagesse humaine. Il ne s'agit pas des meilleures réflexions des vieux sages religieux. Il s'agit de la voix et de la parole de Dieu. Or Dieu a aussi parlé, nous dit le verset 2, dans les derniers jours, ce qui signifie au temps du Messie. Les derniers jours sont le moment où le Messie vient. Le Messie est venu, né à Bethléem, initiant les derniers jours. Et dans les derniers jours, il nous a parlé par son Fils. Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. Et le récit de Jésus-Christ a été écrit après sa venue. 4 auteurs ont été choisis, Matthieu, Marc, Luc et Jean, pour écrire le récit inspiré par la révélation de Dieu en Jésus-Christ, que nous connaissons comme les 4 évangiles. Et puis l'écrivain Luc a été inspiré par l'Esprit de Dieu à poursuivre le récit des événements après la vie de Jésus-Christ dans le livre des Actes, et à montrer les premières années de l'Église. Puis vinrent les auteurs des Épîtres, Pierre, Jacques, Jean, Jude, Paul. Ils ont écrit ces Épîtres qui sont essentiellement explicatives et définissent le sens et la signification de la venue de Dieu en Christ et de son œuvre rédemptrice. Enfin, l'Écriture se termine avec l'Apocalypse, qui est la promesse du retour de Christ dans la gloire à venir. Le Nouveau Testament, en 27 parties, à travers différents auteurs, a couché sur papier les révélations de Dieu, en particulier tout ce qui touche et concerne la personne de Jésus-Christ. Ainsi, nous avons reçu la révélation de Dieu par les écrivains inspirés dans la partie appelée l'Ancien Testament. Nous avons reçu la révélation de Dieu à travers les écrivains inspirés dans la partie appelée le Nouveau Testament. 27 livres plus 39 égale les 66 livres de l'Écriture. C'est la révélation de Dieu. C'est le résultat unique de la révélation de Dieu. Dieu a parlé. Quand vous prenez une Bible, vous lisez la parole de Dieu. Or, le processus que Dieu a utilisé pour créer cette révélation s'appelle l'inspiration. L'inspiration est un mot qui définit un processus. Il définit le moyen utilisé. Nous pouvons tirer quelque chose de ça. Et en passant, c'est un moyen surnaturel. Cela n'a rien de naturel. On pourrait dire, eh bien, quelqu'un a écrit une belle chanson. Elle a vraiment été inspirée. Ou, on a écrit une belle lettre à quelqu'un. C'était vraiment très inspiré. Ou un tel a fait un discours. Et c'était très inspiré. Il s'agit d'un niveau d'excellence humain très différent de ce dont nous parlons ici. Lorsque nous parlons d'inspiration au sens biblique, nous parlons d'un moyen technique à travers lequel Dieu utilise un processus miraculeux surnaturel pour révéler sa propre parole. Prenez dans 2 Pierre pour avoir un bon aperçu de ce processus. 2 Pierre chapitre 1. Dans sa grâce, Dieu nous a révélé ceci. Ce processus d'inspiration dans le texte du Nouveau Testament, afin que nous puissions le comprendre. Versets 20 et 21. 2 Pierre 1, 20 et 21. Mais sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est, poussé par le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Or, ces deux versets sont vraiment chargés de signification en ce qui concerne cette question d'inspiration. Le mot-clé ici est le mot « poussé par » au verset 21. « Poussé par », »,« porté », »,« transporté ». C'est un mot qui est utilisé dans les sources grecques laïques pour désigner quelque chose flottant, comme une feuille au vent. Ils ont été littéralement emportés par le Saint-Esprit. Les auteurs des Écritures, les hommes qui ont écrit les Écritures, et en passant, il n'y a pas d'écrivain féminin de l'Écriture. Tous les 66 livres ont été écrits par des hommes. Ainsi, l'Esprit de Dieu a inspiré ces hommes afin qu'ils parlent réellement de la part de Dieu, portés par le Saint-Esprit. Regardons un peu plus loin dans le texte, au verset 1. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Retour au verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Il y a là deux avertissements clairs, et tous les deux affirment que les Écritures ne proviennent d'aucune source humaine. C'est un livre miraculeux, écrit par Dieu à travers le Saint-Esprit, qui a poussé les écrivains humains à écrire exactement ce que Dieu voulait dire. Aucune prophétie de l'Écriture, et je parle de chacune d'entre elles, aucun passage de l'Écriture n'évoque de prophétie de manière intuitive. Le terme prophétie veut dire « prendre la parole ». Aucun message de Dieu, aucune parole de Dieu contenue dans l'Écriture, rien de ce qui vient de Dieu contenu dans l'Écriture, n'est une question de « relisez cette phrase ». Une question d'interprétation propre. Maintenant, cela a besoin d'un peu d'explication. Je n'ai jamais vraiment aimé la traduction interprétation ici, parce que le mot grec est épilusis. Si vous avez quelque chose sur la langue grecque, luo est le mot pour perdre, et c'est un composé du terme lâcher. C'est l'idée de libérer quelque chose. C'est l'idée de se défaire de quelque chose. Aucune écriture n'est de nature humaine, et je parle de son origine, je parle de sa source. Ici, l'utilisation du génitif indique la source. Pierre nous dit donc ici, l'écriture ne vient d'aucune source humaine. Il n'est pas question ici que certains hommes aient une intimité avec Dieu, que certaines personnes connaissent Dieu, regardent Dieu travailler, aient une connaissance historique de l'action de Dieu, un haut niveau de génie humain et un haut niveau de sensibilité religieuse, lorsqu'ils écrivent leur meilleure compréhension de Dieu. Ce n'est pas cela. Il ne s'agit pas du pire ou du meilleur des hommes, écrivant leurs réflexions à propos de Dieu. Aucune prophétie des Écritures, aucun message nulle part dans les Écritures, n'a comme source un être humain. Et puis au verset 21, il renforce encore l'argument en le répétant. Aucune prophétie n'a jamais été faite par un acte de volonté humaine. C'est une déclaration vraiment considérable. Personne n'a jamais dit, peu importe à quel point ils aient pu être nobles ou divins, « Je pense que je vais créer les Écritures. » Personne n'a jamais dit, ni fait cela. Certains l'ont peut-être dit, mais ils ne l'ont pas fait parce que c'est impossible. Aucune prophétie n'a jamais été faite par un acte de volonté humaine. Vous ne pouvez pas produire l'Écriture à partir de la volonté humaine. Vous ne pouvez pas produire d'Écriture d'origine personnelle. Au contraire, les hommes touchés par le Saint-Esprit ont parlé de la bouche de Dieu. Cela ne vient pas de l'homme. Aucune prophétie n'a jamais été portée par la volonté humaine. Il en va de même pour la parole. Mais elles ont été inspirées, amenées, c'est le même verbe, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a choisi l'auteur, et le Saint-Esprit a donné le message à l'auteur, de sorte que ce qu'il a écrit était exactement la parole de Dieu, immuable et infaillible. Ils ont parlé de Dieu, en écrivant exactement ce que Dieu voulait dire. C'est ça l'inspiration. Passons maintenant à un autre texte, dans 2 Timothée. Nous pourrions consacrer beaucoup de temps à ce texte, et je l'ai fait par le passé. Mais pour l'instant, je veux juste vous mettre en contact avec ces affirmations vraiment formidables, afin que vous compreniez l'essence de l'inspiration. 2 Timothée 3, 16 et 17. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. C'est là que nous avons ce mot « inspiration ». Or, il vient du terme « pasa, graphé, théopneutos ». Le mot « théopneutos » veut dire « souffle de Dieu ». Il a été traduit « inspiré » ici. Cela signifie que Dieu a respiré. Si vous n'aviez pas d'air, vous ne pourriez pas parler. Si vous ne pouviez pas faire expirer, vous ne pourriez pas faire vibrer vos cordes vocales. Vous ne pourriez faire aucun son. Vous ne pourriez pas former vos mots. Ce que cela veut dire, c'est que Dieu a expiré les Écritures. Dieu a parlé. C'est le souffle même de Dieu, et pas seulement dans le sens de la respiration, mais dans le sens de propulser l'air d'une manière qui dépasse la simple vibration des cordes vocales, qui dépasse la simple énonciation au travers de la bouche. Et Dieu a transmis exactement ce qu'il voulait dire. Dieu l'a transmis. Le psaume 33 nous offre un bon texte relatif à cela. Psaume 33, 6. Les cieux ont été faits par la bouche de l'Éternel, et voici son pendant, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Ici, vous avez le terme « la parole du Seigneur » est son synonyme, le souffle de sa bouche. Le souffle de sa bouche est la parole du Seigneur. C'est par le souffle de sa bouche, qui est la parole du Seigneur, que tout a été créé. Dieu l'a créé par sa parole. Alors le souffle de Dieu veut dire la parole de Dieu. Dieu a parlé. Dieu a déclaré. L'Écriture est donc la parole de Dieu. C'est pourquoi Romains 3, 2 appelle les Écritures les oracles de Dieu. Les oracles de Dieu. Dieu est l'auteur de ce que dit la Bible. Tout dans la Bible vient de Dieu, ce n'est pas un livre humain. Toute la parole et chaque mot sont inspirés par Dieu. Elle vient d'au-delà de ses cordes vocales, ou si vous voulez, de manière surnaturelle, et nous transmet précisément ce qu'il voulait dire. Chaque parole de Dieu est pure, dit l'Écriture. Les Écritures ne peuvent pas être anéanties. Jean 10, 35. L'Écriture se réalisera quand bien même le ciel et la terre échoueraient, parce que c'est la parole vivante et stable et éternelle qui sort de la bouche même de Dieu. L'Église l'a reconnue très tôt. Ils savaient quel livre Dieu respirait, car les saints de l'Ancien Testament savaient quel livre Dieu respirait. Il y avait beaucoup de livres religieux écrits dans l'Antiquité. Quand l'écriture de l'Ancien Testament était en cours, il y avait d'autres livres écrits. Il est apparu des livres écrits que vous connaissez comme les livres apocryphes, n'est-ce pas? On les trouve dans la partie intertestamentaire d'une Bible catholique, par exemple. Ces livres ne sont pas inclus dans le canon biblique. Comment ont-ils fait la différence? Il y avait des manières très, très distinctes de savoir ce qui était biblique. 1. Ils savaient que cela devait être écrit par un vrai porte-parole de Dieu, un prophète de Dieu dans le cas de l'Ancien Testament, un apôtre de Dieu ou un associé avec les apôtres dans le Nouveau Testament. Ils savaient que cela devait donc avoir une paternité apostolique ou une affirmation apostolique. Dans l'Ancien Testament, ils étaient les prophètes de Dieu, les porte-paroles de Dieu qui ont écrit ces livres. Tout le monde savait qui ils étaient. Ils ont également été affermis par le contenu interne des textes. Il était clair qu'ils étaient compatibles avec tout le reste dans l'Écriture. Ils avaient un élément surnaturel pour eux. Ils avaient l'élément miraculeux pour eux. Ils ont exalté la grandeur de Dieu et condamné le péché de l'homme, qui est ce que Dieu a tendance à faire, contrairement aux faux écrivains et aux faux enseignants. Ce qu'étaient les livres canoniques, c'était très clair pour eux. Ils sont appelés canoniques du terme « canon », qui était le mot pour désigner quelque chose de standard. Ce sont les livres standards de la révélation de Dieu. Les conciles de l'Église ont reconnu officiellement, au IVe siècle, le canon du Nouveau Testament. Mais officieusement, l'Église a toujours su ce qui appartenait au texte et ce qui ne lui appartenait pas. C'était facile à reconnaître. A-t-il été écrit par un apôtre dans le cas du Nouveau Testament ou l'associé d'un apôtre? Avait-il cette impression de caractère surnaturel? Avait-il cette exaltation de Dieu et de Christ? Et avait-il ceci, cette condamnation de l'iniquité? Était-il compatible avec tous les autres écrits du Nouveau Testament? Et était-il attesté par les apôtres eux-mêmes? L'Église, pour illustrer mon propos, l'Église ne nous a pas donné le canon du Nouveau Testament, pas plus qu'Isaac Newton nous a donné la loi de la gravité. La loi de la gravité existait avant qu'Isaac Newton ne l'identifie. Le canon existait avant que l'Église ne l'identifie. C'est Dieu qui nous a donné la gravité. C'est Dieu qui nous a donné l'Écriture. Puis nous l'avons reconnue. L'Église l'a reconnue. Et Dieu est alors l'auteur de tout ce que dit l'Écriture. Il n'y a rien dans l'Écriture que Dieu n'ait pas écrit lui-même. Et l'Église a universellement affirmé cela. Tout comme l'Ancien Testament, de 39 livres, a été universellement attesté à travers les âges. Le Nouveau Testament l'a été aussi. Il n'y a vraiment aucune équivoque sur ce point. Nous avons reçu la parole vivante et permanente de Dieu. Or, vous devez comprendre certaines autres choses à propos de l'inspiration de l'Écriture. Paul ne dit pas dans 2 Timothée, et il est très important de le noter. Il ne dit pas que les écrivains ont été inspirés. Il dit que toute l'Écriture est inspirée. Et je veux que vous compreniez cela. Les écrivains n'ont pas été inspirés. Les Écritures l'étaient. Nous parlons aujourd'hui d'une personne inspirée, une grande réussite inspirée, ou un grand accomplissement littéraire, quel qu'il soit, même une grande réussite scientifique. Ce n'est pas de ça dont nous parlons ici. La Bible n'a rien à voir avec des hommes inspirés. Elle ne connaît que des mots inspirés. Vous avez compris, c'est très important. Vous me direz, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire par là que Paul a écrit des choses qui n'étaient pas inspirées. Ce n'était pas Paul qui était inspiré, c'était l'Écriture qui était inspirée. Et quand Paul a écrit les Écritures, c'était l'Écriture qui était inspirée. Quand Paul a écrit quelque chose d'autre, ce n'était pas inspiré. Rappelez-vous maintenant, nous avons étudié 2 Corinthiens, avant de prendre notre petite pause. Nous y reviendrons en août. Et dans 2 Corinthiens, je vous ai dit à plusieurs reprises que Paul a écrit aux Corinthiens. 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, les deux livres inspirés du Nouveau Testament. Mais il y a une lettre qu'il aura écrite avant 1 Corinthiens et une lettre entre 1 et 2 Corinthiens, qui n'apparaissent pas dans l'Écriture. Parce qu'elle n'était pas inspirée. Paul n'est pas seulement généralement inspiré. Aucun auteur de la Bible ne l'est. Isaïe n'était pas un écrivain inspiré en tant que tel, ni David, ni Paul, ou Jean, ou qui que ce soit d'autre. Ce n'est que lorsqu'ils ont écrit les Écritures qu'ils ont été inspirés, ou littéralement, ils étaient le véhicule par lequel Dieu a inspiré sa parole. L'Écriture est la parole de Dieu. Ce ne sont pas les mots des hommes inspirés. Les écrivains ont écrit la parole inspirée. Alors Dieu leur a insufflé les paroles mêmes qu'il voulait qu'ils écrivent. Et par certains moyens miraculeux, surnaturels, indescriptibles, ils ont écrit exactement ce que Dieu voulait dire. Ce n'est pas difficile si vous êtes Dieu. il peut certainement accomplir cela. Le processus réel ne peut être décrit. C'est miraculeux. Il ne peut pas être défini. Il est surnaturel. Certains ont suggéré que c'était un haut niveau de réussite humaine. Pas du tout. Certains ont dit, eh bien, ils étaient des écrivains comme Shakespeare, et ils avaient ce formidable génie religieux. Et ainsi, à leur niveau élevé de génie humain religieux, ils ont réalisé de grands écrits littéraires, parce qu'ils étaient très doués, et avaient le spécial génie de l'écriture. Ce n'est pas vrai. Absolument pas vrai. L'écriture ne pourra jamais être le résultat d'un haut niveau de réalisation humaine, pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, il n'y avait qu'environ 2 écrivains de l'écriture qui étaient remarquables en tant qu'écrivains en dehors de l'écriture. Les seules personnes que nous connaissons qui apportaient régulièrement des contributions en tant qu'écrivains étaient David et Salomon. Le reste d'entre eux était un assortiment de bergers, de pêcheurs, de gardiens de troupeaux, et qui sait quoi d'autre. Quelques dirigeants ici et là, des sortes d'apôtres obstinés et bornés, qui pendant tout le temps de la vie de Jésus-Christ en ont très peu compris, et ont dû ensuite tout écrire à son sujet. Ils n'étaient pas connus en tant qu'hommes de lettres. Ils n'étaient pas de grands écrivains. Ils n'étaient pas éduqués. Pas du tout. De plus, le génie humain ne pouvait pas produire Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas inventer une personnalité comme celle de Jésus-Christ. La personnalité, le caractère, la personne de Jésus surpasse l'impureté, l'amour, la droiture, le pouvoir, la perfection, la sagesse, la vérité, tout ce qui se trouve dans la pensée humaine. Où dans le monde, les hommes littéraires auraient-ils trouvé un modèle pour créer une telle personne? Et pourquoi écrirait-il un livre qui condamne les hommes? Ils ne pouvaient pas inventer Jésus. Quand l'homme, au plus haut niveau de sa réussite, écrit, il écrit sur lui-même, et il tend à s'exalter, à ne pas se condamner. Il ne pouvait pas produire les Écritures. Et c'est pourquoi ils affirment que Dieu l'a écrit. Ils affirment que Dieu leur a parlé. Ils affirment qu'ils écrivaient la parole de Dieu. Et c'est incroyable qu'ils ne l'affirment pas uniquement directement. Et je le mentionnerai dans un instant. Mais la Bible affirme 4000 fois qu'elle est la parole de Dieu. 4000 fois. Et cela signifie que les écrivains ont affirmé 4000 fois qu'ils écrivaient la parole de Dieu. Mais en dehors de ce détail, ça m'a toujours fasciné qu'il y ait dans la Bible un certain sentiment d'infaillibilité que les hommes ordinaires pourraient trouver très difficile à vivre. Par exemple, si vous avez décidé que vous vouliez transmettre quelque chose que vous avez écrit comme révélation divine et que vous n'étiez qu'une personne moyenne, vous pourriez être pressé d'essayer de convaincre les gens qu'ils devraient accepter ce que vous dites comme venant directement de Dieu. Donc vous pourriez l'affirmer quelque part dans votre texte. Eh bien, vous savez, je sais que c'est difficile pour vous de croire, puisque je n'ai aucune éducation et que je ne suis pas une personne très en vue, mais j'écris la révélation de Dieu. Et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de « eh bien, je sais que cela vous semble impossible à accepter, parce que vous savez qui je suis, et je suis juste ce mec humble, et vous ne pouvez pas comprendre comment cela pourrait venir de moi. Mais je vous dis simplement, les gars, que cela vient vraiment de moi, et c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien de tout cela. Absolument rien de tout cela. Il n'y a pas de tentative de justification de ce processus d'inspiration. Il n'y a pas de tentative pour faire croire aux gens que c'est vraiment le cas. Il n'y a pas de conscience de soi. Les écrivains sont complètement inconscients d'eux-mêmes. Il n'y a jamais aucune sorte de défense d'eux-mêmes en tant que source de la révélation. La seule fois qu'un écrivain se défend, comme le fait Paul, c'est pour défendre la viabilité de son ministère. Près de 4000 fois, ils disent qu'ils écrivent la parole de Dieu, et pourtant personne ne plaisante jamais ni ne dit « Je sais que vous trouvez cela difficile à accepter. Il n'y a pas de conscience de soi. Quand bien même, la plupart d'entre eux n'avaient pas d'éducation formelle, pas de formation approfondie, n'étaient absolument pas en position de produire de telles écritures, n'étaient pas particulièrement importants, ni connus pour avoir écrit autre chose, à l'exception de Salomon, qui écrivait de nombreux proverbes, qui n'étaient pas tous dans la Bible par tous les moyens, et David, qui était un auteur de chansons, et doit avoir écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de chansons. Et pourtant, vous savez, quelqu'un comme Moïse, qui n'est pas connu comme étant l'écrivain de quoi que ce soit, et qui affirme dans le Pentateuque 680 fois qu'il écrit la parole de Dieu, et il n'en est jamais conscient. Les livres prophétiques ont 1307 affirmations de ce genre, les livres d'histoire 418, les livres poétiques près de 200 de ces affirmations. Et pourtant, il n'y a aucune conscience de soi à leur sujet. Ils écrivaient juste la parole de Dieu comme Dieu la leur avait transmise. Les auteurs du Nouveau Testament affirment que l'Ancien Testament est la parole de Dieu. En fait, 320 fois, les écrivains du Nouveau Testament citent l'Ancien Testament comme étant la parole de Dieu. 1000 fois, ils y font allusion comme étant la parole de Dieu, en utilisant une référence claire et précise à un passage de l'Ancien Testament. Ainsi, 1300 fois, les auteurs du Nouveau Testament confirment l'Ancien Testament, et ils le font par la loi, le Pentateuque, ils le font dans les livres d'histoire, ils le font dans les livres des prophètes mineurs, dans ceux des grands prophètes, et dans les écrits saints, les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, et ainsi de suite. En d'autres termes, ils affirment que chaque partie de l'écriture de l'Ancien Testament est la parole de Dieu, et ce de manière inconsciente. Puis, dans le Nouveau Testament, ils écrivent ce qu'ils écrivent, avec cette même absence totale de conscience de soi. Paul, lisant la loi de Dieu, l'Ancien Testament, dit que la loi est sainte, juste et bonne. Il affirme la sainteté, la perfection de la loi de Dieu, l'Ancien Testament. Jude cite l'écriture de Pierre, Pierre cite l'écriture de Paul, et Jean se cite lui-même. Jean vient juste d'écrire les lettres aux églises. Il dit que les églises entendent ce que l'Esprit dit. Jean savait qu'il écrivait ce que l'Esprit disait, pas ce que lui disait. La Bible n'est pas née du haut niveau de génie humain. Or d'autres ont suggéré que ce qu'on entend vraiment par inspiration, c'est que Dieu a révélé des concepts à ses auteurs. Je ne sais pas pourquoi les gens doivent trouver des explications comme ça, mais ils le font. Donc Dieu révélerait des concepts, et les écrivains pourraient choisir les mots qu'ils voulaient. La Bible n'étaye pas cela. En outre, comment pouvez-vous transmettre des concepts sans mots? Je ne suis pas sûr de savoir comment faire ça. Mais l'idée est que Dieu a transmis quelques idées spirituelles, mais pas d'inspiration verbale. Rien d'absolu, ni d'infaillible. Ce n'est pas du tout ça. Quand Dieu a appelé Moïse au buisson ardent, et que Moïse fouillait autour de lui et n'y croyait pas, vous savez qu'il a alors reçu l'éloquence pour représenter Dieu. Et Dieu lui a dit, « Je veux que tu sois mon porte-parole. Je veux que tu parles pour moi. » Exode chapitre 4. Et Moïse a dit, « J'ai la bouche et la langue embarrassées. Et voilà ce que Dieu lui dit. Va, et je serai ton esprit, et je t'enseignerai quoi penser. » Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, « Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Au temps de Samuel, la parole de Jéhovah était précieuse en ses jours. Il n'y avait pas de vision fréquente. En d'autres termes, il était rare d'entendre Dieu parler. Il y avait une rareté de l'écriture à cette époque. Samuel ne connaissait pas encore Jéhovah. Et la parole du Seigneur ne lui était pas non plus révélée. Donc, il y a eu une période de silence. Ceci est attesté dans 1 Samuel 3. Puis, tout à coup, Dieu a brisé le silence, et il a appelé Samuel. Vous vous en souviendrez. Il a appelé trois fois, et Samuel a répondu, « Parle, ton serviteur écoute. Parle, ton serviteur écoute. » Ésaïe dit, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Et aussitôt, il est dit dans Ésaïe 6, « Il dit alors, va, et dis à ce peuple, bla 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 bla. » Et Dieu décrit exactement ce qu'il veut dire, mot pour mot. Jérémie a écrit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » En d'autres termes, c'est une déclaration explicite. La parole du Seigneur est venue à lui, et il la cite avec exactitude. « Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Jérémie 1, 4 à 9. Chapitre 5, verset 14. « Je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Vous ouvrez la bouche, le feu vient. Le peuple sera comme du petit bois, dit-il, et la parole du jugement va les brûler. » Chapitre 15. J'ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. En fait, au chapitre 15, verset 19, Jérémie dit, « Tu seras comme ma bouche. » Dans Ézéchiel, il dit à Ézéchiel au chapitre 2, « Je t'envoie vers les enfants d'Israël. Écoute ce que je vais dire. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. » Voilà comment cela se passait. Dieu parlait, et il parlait. et ils disaient ce que Dieu leur avait demandé de partager. Il y avait Amos, ce n'était même pas un prophète. Il dit au chapitre 7 de sa prophétie, « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger, et je cultive des sycomores. Il était fermier. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit, « Va, prophétise à mon peuple d'Israël. » Aucun entraînement. Il ne savait pas ce qu'il allait dire, n'avait aucune préparation. Vous y allez juste, et vous leur dites exactement ce que je vous dirai de leur dire, dit Dieu. L'apôtre Paul a été informé par Ananias, après qu'il ait été aveuglé sur la route de Damas et appelé au ministère. Ananias lui a dit qu'il serait un témoin pour le Seigneur. En réponse à cela, il dit dans Galates, au chapitre 1, « L'évangile qui a été annoncé par moi, dit-il, n'est pas de l'homme. » Cela venait directement du Seigneur. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang. Il a été enseigné par Dieu. J'en dis, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Dans Apocalypse 1, et j'entendis derrière moi une voix forte qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. » Dieu lui dit exactement quoi écrire. Même Jésus-Christ, le Verbe s'est fait chair, c'est merveilleux. Il a reçu son message de Dieu. Ésaïe a dit de lui, « L'Éternel a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » Voici le Messie qui parle par prophétie, en disant qu'il ne dira que ce que Dieu dirait à travers lui. Et Jésus dit ceci, « Car je leur ai donné, Jean 17:8, les paroles que tu m'as données. » C'est exactement ce que Jésus a fait. Il n'a fait que répéter ce que Dieu lui a dit de répéter. Donc, quand vous parlez de la Bible, ne parlez pas d'idées de Dieu, en général. Chaque mot est purement de Dieu, et non pas seulement des idées flottantes. Vous ne pouvez pas transmettre d'idées sans mots, autant parler d'une mélodie sans notes, d'un soleil sans lumière, d'une somme sans chiffres, de géologie sans pierre, d'anthropologie sans homme, ou de mélodie sans musique pour parler de pensée sans mots. Or, pour vous montrer à quel point ce miracle était profond, ouvrez dans 1 Pierre, chapitre 1, pour un instant. 1 Pierre, chapitre 1. Nous devons nous dépêcher un peu. 1 Pierre, chapitre 1, versets 10 et 11. Quant à ce salut, il est évident que le salut est le thème récurrent de la Bible et certainement le thème de l'Ancien Testament. Comme Dieu promet le Sauveur à venir, celui qui écrasera la tête du serpent, le chef qui viendra entre les pieds de Jacob, celui qui sera Silo, le prince qui doit venir, le Messie, l'agneau final représentant tous les sacrifices. La rédemption dans le Messie à venir est le thème de l'Ancien Testament, de sorte que le salut est le sujet principal. Pour ce salut, verset 10, 1 Pierre 1, 10, les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. C'est une déclaration fascinante. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que les auteurs de l'Ancien Testament ont étudié ce qu'ils ont écrit pour comprendre ce que cela signifiait. Maintenant, si vous êtes un auteur et que vous ne savez pas ce que vous avez voulu dire par ce que vous écrivez, vous avez des problèmes. Chaque fois que vous écrivez jusqu'à ce que vous compreniez clairement ce que vous essayez de transmettre et vous croyez que c'est assez clair pour que tout le monde comprenne. Vous travaillez très dur. Il n'y a aucune vertu à être difficile à comprendre. Il n'y a aucune vertu à écrire des choses qui ne sont pas claires. Il n'y a pas de vertu à prêcher des choses qui ne sont pas claires. En fait, je dis toujours aux jeunes prédicateurs qu'il est très facile d'être difficile à comprendre. C'est vrai, très facile d'être difficile à comprendre. Parfois, vous entendez les gens dire, « Vous savez, c'était trop profond pour moi. » Eh bien, c'est vraiment possible. Plus probablement, la raison pour laquelle vous n'avez pas compris était parce que le locuteur non plus. C'est très facile d'être difficile à comprendre. Tout ce qu'il faut, c'est que vous ne sachiez pas de quoi vous parliez. Et je vous promets ça à coup sûr. Si vous ne savez pas de quoi vous parlez, Personne d'autre ne le saura non plus. C'est très difficile d'être clair comme de l'eau de roche, parce que pour être clair comme le cristal, il faut être clair sur ce que vous dites. Et c'est là le défi. Eh bien, il y avait là des hommes sous l'inspiration de la parole de Dieu qui écrivaient des choses qu'ils ne comprenaient même pas. Cela vous montre le caractère surnaturel et miraculeux de l'inspiration. Et ils l'écrivaient et l'étudiaient ensuite pour essayer de comprendre ce que cela signifiait. Et il y avait une distanciation d'eux et de leur écrit parce que Dieu les utilisait comme véhicule. Maintenant, d'autres critiques disent « Eh bien, la Bible. La Bible est la parole de Dieu pour ce qui est du domaine spirituel, mais elle ne concerne pas d'autres domaines, comme la géologie, l'histoire, la science et ce genre de choses. Elle ne sert à rien dans ces cas-là. » Les critiques aiment ce genre de choses. Ils adorent ça. Ils aiment prendre des extraits dans la Bible et dans la nouvelle Bible d'études à chaque endroit où ils ont fait cela, à chaque endroit où il y a une contradiction apparente. Nous avons rédigé une section pour y répondre. Et il y a des réponses claires à toutes ces questions. Mais voici un exemple typique. Ils disent « Eh bien, la Bible n'a que spirituellement raison. Ce n'est pas juste historiquement, etc. » Et ils utilisent, l'un d'eux utilise une illustration dans Nombre 11, 31 et 32. Je n'ai pas le temps d'y aller. Je vais vous raconter l'histoire. Dans Nombre 11, 31 et 32, les enfants d'Israël sont dans le désert du Sinaï. Ils n'ont pas de nourriture. Donc Dieu fournit de la nourriture, vous vous souvenez. Et un vent souffle un jour et il envoie des cailles. Il souffle pour que ces cailles viennent vers eux et il commence à rassembler les cailles. Et les cailles sont... elles sont omniprésentes. Je veux dire, elles sont partout. En fait, la personne qui en recueille le moins en obtient 11 boisseaux. Et la caille est quelque chose de petit. Nous en avons dans notre jardin tous les matins. Elles sont juste de petites choses. Elles sont partout et elles sont très dociles. Elles volent dans les filets et c'est tout. Et ils les ont alors toutes rassemblées. Dieu fournit cette nourriture merveilleuse pour eux. Eh bien, il est dit dans Nombre 11, 31 et 32 qu'ils étaient, qu'ils avaient deux coudées de haut. Et le critique a ri de cela et a dit « Vous savez, c'est ridicule. Eh bien, prenons deux coudées, ce qui s'approche d'un mètre trente, 1,30 m de hauteur de caille. Et il est question d'une journée de voyage d'un côté du camp et d'une journée de voyage de l'autre côté du camp. Et vous avez des kilomètres de caille d'1,30 m de haut. Et ce critique dit que, pense-t-il, il y aurait 19 538 468 306 672 cailles. Il dit, voyez la folie de la Bible. Je veux dire, c'est une absurdité absolue. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est que le mot hébreu, quand il parle de 4 pieds de haut, ne signifie pas qu'ils avaient 4 pieds de hauteur. Cela signifiait qu'ils volaient à cette altitude, qui était l'élévation parfaite pour juste, vous savez, juste pour pouvoir les atteindre. Et ils n'ont même pas eu à se pencher ou à sauter pour les avoir. La Bible est, écoutez bien, écrite par un Dieu qui est omniscient. Et il en sait autant que les cailles, que sur les choses spirituelles, n'est-ce pas? Aucune différence. Donc la parole du Seigneur, la parole de Dieu est juste en cela. Vous devez avoir cette compréhension, afin d'avoir une compassion et une passion pour la vérité, afin de vouloir la connaître, pour vouloir en faire une partie de votre vie. Maintenant, mettez ça de côté pour un moment. Et je veux terminer dans les prochaines minutes avec juste un bref aperçu de ce que j'ai fait dimanche soir dernier pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là dimanche dernier, parce que vous êtes en quelque sorte des intermittents ici quand vous manquez les messages alternatifs. Dans la nuit de dimanche dernier, je voulais juste terminer en vous disant ceci. Nous avons parlé des conditions requises pour étudier la Bible. J'ai essayé de vous donner une base de ce que vous avez à faire dimanche matin. Et ce matin, pour comprendre ce livre vivant de vérité, extrêmement puissant. Maintenant que vous comprenez ce qu'est la Bible, que faut-il pour être un étudiant efficace? Laissez-moi vous donner la petite liste que nous avons commencée dimanche soir dernier. Je vais juste vous la donner brièvement. Numéro 1. Vous devez être chrétien. Vous devez être chrétien. Vous devez être né de nouveau. Parce que 1 Corinthiens 2,14 dit que l'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. Elles sont une folie pour lui, parce qu'elles sont spirituellement discernées, et il est spirituellement mort. Verset 16. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Vous pouvez prendre tous les meilleurs érudits théologiques et tous les plus grands esprits dans le domaine de la religion, les assembler et mettre une Bible en face d'eux, et ils la déformeront. Je me fiche de savoir à quel point ils sont intelligents. Peu importe leur diplôme, peu importe la théologie qu'ils ont étudiée. Vous pouvez voir ce qu'ils font à la Bible. Allez dans n'importe quel département de théologie laïque, de n'importe quelle université, ou de tout séminaire, qui est plein de non-croyants, et vous verrez des choses anti-Dieu, anti-Christ, anti-Bible. Parfois, ils les rapportent à la télévision. Ils avaient un truc sur PBS, où ils voulaient discuter du livre de la Genèse. Alors, ils ont amené une bande de libéraux incrédules pour discuter de la Genèse. Ils se sont tous trompés. Ils se sont tous trompés. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes naturels. Ils ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu, qui sont spirituellement discernées, parce qu'ils sont spirituellement morts. Et ça les dérange profondément, que les humbles et le peu de gens ordinaires, pas si puissants, comprennent la Bible, parce qu'ils ont l'onction de Dieu, à savoir le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses, n'est-ce pas? Et l'Esprit et le discernement. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui, dit Paul dans ce même chapitre. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. La Bible est déroutante pour n'importe quel esprit humain, peu importe à quel point cet esprit est grand. Mais elle est aussi claire qu'elle peut l'être pour tout croyant qui l'étudiera. C'est par ça que tout commence. Et nous nous sommes intéressés à ça dimanche soir. Deuxième point que nous avons évoqué. Vous ne pouvez pas être un étudiant de l'Écriture, à moins que vous n'en ayez un fort désir. Il doit y avoir une passion quelque part en vous. Vous n'entrerez jamais dans les richesses profondes de la vérité de Dieu, à moins que vous n'ayez une motivation pour cela. Et j'irai jusqu'à dire que la raison pour laquelle la plupart des chrétiens n'étudient jamais profondément les choses de Dieu, c'est qu'ils ne sont pas motivés par cela. Ils sont motivés à faire autre chose. Vous devez prier que Dieu vous donne ce désir qui est évoqué dans 1 Pierre 2:2. Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur. Vous devriez désirer la parole, comme un bébé désire le lait. Comprenez-vous qu'un bébé désire du lait non pas parce qu'il en aime la saveur. Je pense qu'ils en aiment la saveur, mais ils ont un mécanisme intégré qui déclenche la notion de nécessité dont ils ont besoin. Ils en dépendent pour le meilleur de la vie, pour leur santé et leur bien-être. La même chose est vraie en tant que croyant. Si vous voulez un véritable bien-être spirituel et un véritable épanouissement, une vraie joie et un épanouissement dans tous les domaines de votre vie de chrétien, cela vient de la parole de Dieu. Vous devez être motivé pour aspirer à ce mot, comme un bébé aspire au lait. Quelque part, le long de la ligne de ma vie, j'ai reçu, et je remercie Dieu de m'avoir donné cet élan formidable, ce désir ardent de connaître les Écritures, de poursuivre la vérité des Écritures, d'aimer la parole, de la proclamer, de la personnaliser, de l'honorer, de me battre pour cela. C'est une bénédiction énorme. Personne n'atteindra jamais la connaissance de la parole, si ce n'est avec le désir de le faire. Cela commence avec cette passion du cœur. Si vous ne l'avez pas, vous devez prier pour que Dieu vous la donne. Lisez Proverbe 2. Vous voulez de la sagesse, pleurez pour cela. Vous voulez du discernement, criez dans la rue pour cela. Poursuivez-le comme de l'or. Allez-y comme les gens courent après les choses du sol, telles l'or, les diamants et les bijoux précieux. Job 28 dit la même chose. Il dit « Je regarde, et je vois ces hommes, et ils font des mines, et ils vont chercher de l'or, et ils courent après des bijoux et des diamants, et ils creusent des puits dans la terre où personne n'a jamais été, et ils renversent la terre. Et ils font tout cela pour la richesse humaine. Puis ils posent la question au verset 20. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Et la réponse vient alors. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Les hommes de notre monde sont très capables de déterrer toutes sortes de choses précieuses d'un point de vue matériel. Mais quand il s'agit de la vraie sagesse, ils en sont dépourvus, n'est-ce pas? Elle appartient seulement à ceux qui la cherchent, seuls ceux qui connaissent Dieu, et qui cherchent à connaître la vérité par sa force. Cela m'amène à un troisième point. Si vous voulez être un bon étudiant de la Bible, vous devez être assidu. Cela nécessite de l'assiduité. Quand j'étais enfant, on nous disait, vous savez, lisez la Bible 15 minutes par jour et faites vos dévotions quotidiennes. Les dévotions quotidiennes m'ont rendu fou, essentiellement parce que je n'aimais pas lire la Bible et ne pas la comprendre. Je finissais par la mettre de côté. Et puis, le jour suivant, je lisais autre chose que je ne comprenais pas. J'ai toujours voulu savoir ce que ça voulait dire. Quelque part, le long du chemin, il doit y avoir de l'assiduité. Il doit y avoir une fin de fouiller dans les Écritures. Prenez le texte d'Actes 17. Acte 17 parle des Béréens, qui étaient plus nobles que n'importe qui d'autre, parce qu'ils cherchaient quotidiennement dans les Écritures pour voir si cela était vrai. C'est ce qu'il faut faire. Soyez assidus pour être un ouvrier approuvé par Dieu, n'ayant pas besoin d'avoir honte, partageant correctement la parole. Soyez comme ces anciens dans 1 Timothée 5:17, qui travaillaient dur à comprendre la parole et la doctrine, travaillant au point de suer et de s'épuiser. Les jeunes qui viennent au séminaire posent souvent des questions amusantes. Je me souviens de ce qu'un jeune mec du séminaire m'a demandé un jour, la première fois qu'il m'a rencontré. Il m'a dit, « Vous savez, j'allais juste vous demander de quel livre vous tiriez tout votre bon matériel. Eh bien, c'est la question typique d'un gars qui... Il n'y a pas de tel livre, mais peu importe. Un autre dont je me suis toujours souvenu. Un jeune homme qui m'a dit, « Qu'est-ce que... » Il avait une sorte de lueur dans le regard, et je suis sûr qu'il s'attendait à une réponse spirituelle ésotérique. Il a dit, « Quelles sont les véritables clés pour une bonne prédication ?» Et j'ai répondu, « Eh bien, c'est la capacité de garder votre derrière sur la chaise jusqu'à ce que vous compreniez le texte. » Bon sang, il était choqué. « Oui, c'est la vraie clé. Ce qui sépare la grande prédication de la prédication pauvre est de savoir si vous savez de quoi vous parlez ou non. Mis à part des dons d'orateur, c'est quand vous comprenez le texte. Comme nous l'avons dit plus tôt, c'est quand vous comprenez vraiment la parole de Dieu, qu'elle est assez claire pour vous, qu'elle sera claire pour quelqu'un d'autre, que c'est une bonne prédication. C'est ce qui sépare le grand étudiant de la parole de Dieu du médiocre. C'est l'effort, le simple effort, pas de magie, juste des efforts. Laissez-moi vous donner un quatrième prérequis si vous voulez être un étudiant de la Bible. C'est la sainteté. Regardez encore dans 1 Pierre 2:1. 1 Pierre 2:1. Rejetant donc toute malice, c'est le terme pour mal, kakia en grec, toute ruse ou fraude, la dissimulation, l'envie et toute médisance, débarrassez-vous du péché, débarrassez-vous du péché. L'une des grandes réalités dans l'étude de la Bible est que vous allez recevoir l'enseignement du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne pourra pas vous combler et vous enseigner s'il y a du péché dans votre vie. Le péché gâche tout, laissez-moi vous le dire. C'est pourquoi il est absolument crucial de comprendre Jacques 1:21. Jacques 1:21. Essentiellement en lien avec 1 Pierre 2:1, qui dit ceci. Rejetez toute souillure et tout excès de malice, tout ce qui reste de la méchanceté qui est en vous depuis votre salut. Débarrassez-vous-en et recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Cette parole ne peut pas entrer dans votre vie jusqu'à ce que vous ayez traité avec le péché. Donc, la première chose que vous devez faire lorsque vous vous approchez de la parole de Dieu, c'est de confesser votre péché. Le péché est une barrière. Pourquoi? Parce que ça trouble votre esprit. Il coupe la libre activité de l'Esprit de Dieu. Je vais vous dire autre chose. Ça crée des présupposés à votre étude de l'Écriture. Parce que si vous hébergez le péché dans votre vie, alors vous êtes le plus susceptible de déformer l'Écriture pour ne pas y faire face. Vous vous arrangerez avec la vérité et l'interprétation des Écritures pour vous cacher. Ou, si vous ne voulez pas être honnête avec votre propre vie et honnête avec votre propre cœur, et si vous n'êtes pas disposé à vous exposer au Seigneur dans une confession ouverte et honnête de vos péchés, alors vous rencontrerez certainement des passages de l'Écriture qui, lorsqu'ils commenceront à percer votre cœur, vous feront trouver une autre façon de les interpréter. Et puis, quand vous entrerez en chair pour prêcher, ou quand vous entrerez dans une classe pour enseigner, ou quand vous arriverez à un endroit où vous enseignez quelqu'un, ou quand vous dirigerez votre conjoint ou vos enfants, vous vous protégerez contre la parole de Dieu pour protéger votre propre péché. Vous ne pouvez pas être un étudiant efficace de la parole de Dieu, un étudiant honnête et efficace de la parole de Dieu, avec le péché dans votre vie. C'est pourquoi nous disons si souvent, quand les gens se détournent de la parole de Dieu, qu'ils se détournent de l'intérêt pour la parole de Dieu, ne veulent pas venir à l'Église, ne se soucient pas d'entendre la prédication régulière et l'enseignement de la parole de Dieu, n'ont aucun appétit pour la vérité, que c'est indicatif du péché. Ce n'est pas seulement le péché, c'est le péché qui cause ce péché d'indifférence envers la vérité. Et généralement, c'est un euphémisme, parce que la vérité perce et expose quelque chose qu'ils ne veulent pas montrer. Donc une des choses qui doit arriver, si vous allez vraiment traiter avec la parole de Dieu, et recevoir la parole donnée dans sa plénitude et sa pureté dans la puissance de l'Esprit et dans la clarté, Êtes-vous prêt à abandonner tout ou n'importe quoi dans votre vie qui vous en empêche? Puis un cinquième prérequis est l'obéissance. Parce que dans le verset 22 de Jacques 1, il est dit « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous ne croyez pas vraiment ce que dit la Bible si vous ne la vivez pas, n'est-ce pas vrai? Est-ce juste? Ainsi, un bon étudiant de la Bible apprend et l'applique immédiatement et la met en pratique. Ce n'est pas quelque chose d'éthéré, ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est un mode de vie. Le temps est écoulé, et je vais vous donner le dernier prérequis, le numéro 6, la prière. La prière. Éphésiens 1 est une parole très puissante. Éphésiens 1, 17, Paul prie. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et il dit au verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Paul dit, je prie pour vous, je prie pour que Dieu vous donne la sagesse, la révélation, la connaissance, l'illumination, la compréhension, la prière. Les gens me posent des questions sur la prière. Je dis toujours que les temps de prière les plus intenses pour moi sont les moments où j'étudie les Écritures et où je demande au Seigneur la clarté. Je demande au Seigneur de la sagesse, de la perspicacité, de la compréhension, de l'illumination, de comprendre sa vérité et comment l'appliquer dans ma propre vie ainsi que dans l'Église. Vous voulez être un étudiant de ce livre surnaturel miraculeux? Cela exige que vous soyez né de nouveau, en ayez un fort désir, que vous soyez assidu, saint, obéissant et prieur. Et toutes ces choses sont l'œuvre de l'Esprit, n'est-ce pas? Nous devons donc en venir à marcher par l'Esprit, nous abandonner à lui, plaider auprès de lui qu'il fasse son œuvre dans notre vie. Ce soir, nous allons aborder la façon d'étudier réellement l'Écriture, de l'ouvrir et de la comprendre. Prions. Encore une fois, notre Père, ce matin nos cœurs ont été remplis du temps de l'adoration, remplis de l'émerveillement de ta vérité, et nous sommes si reconnaissants. Nous prions maintenant que tu confirmes à nos cœurs toutes ces choses. Donne-nous un grand amour pour ta vérité, qui change tant nos vies et qui produit la joie et t'apporte la gloire. Que nous connaissions et vivions pour ta gloire et en ton nom. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.